Vous le savez, aujourd'hui plus que jamais, la sécurité de nos informations est cruciale dans les petites ou moyennes entreprises, les start-up tech ou les boutiques en ligne. Alors imaginez un expert cyber disponible à la demande, capable d'adapter ses solutions à la taille et aux besoins de votre entreprise. C'est ce que propose Orange Cyberdéfense, leader en cybersécurité reconnu à l'échelle mondiale. Que ce soit pour un diagnostic afin d'évaluer vos vulnérabilités, une formation personnalisée pour vos équipes ou pour tester vos défenses de manière proactive en simulant une attaque, Orange Cyberdéfense est présent pour les petites entreprises. Pour vous permettre d'en savoir plus, un webinar aura lieu le 28 mai prochain, une occasion idéale de poser vos questions directement aux experts. Il y a très peu de place, mais Monde Numérique vous offre l'opportunité de suivre cet événement exclusif. Il suffit de vous inscrire dès à présent sur le site orangecyberdéfense.com, rubrique événements avec le code Monde Numérique. Notez la date sur vos tablettes, 28 mai 2024, et inscrivez-vous dès à présent. C'est le rendez-vous à ne pas manquer pour prendre les devants contre les cybermenaces.
Monde Numérique, spécial CES de Las Vegas.
Voilà, c'est parti pour le CES de Las Vegas édition 2024. C'est aujourd'hui que ça ouvre et c'est ici que ça se passe. Oui, c'est vraiment parti cette fois. Le salon high-tech, le plus grand du monde, a ouvert ses portes officiellement mardi 9 janvier au matin, heure de Las Vegas. On en parle dans ce troisième épisode spécial de Monde Numérique consacré au CES. Cet épisode vous est proposé en partenariat avec FreePro, le meilleur de free pour les entreprises. FreePro qui a choisi Monde Numérique pour vous faire vivre ce CES 2024. Alors, on a carrément retrouvé l'ambiance des grandes années, il faut le dire, l'ambiance des années pré-Covid, hein, parce qu'il y avait eu un peu des passages à vide au CES de Las Vegas. On se souvient de ces stands complètement désertés par certains grandes entreprises, et puis le nombre de visiteurs aussi avait énormément baissé. Les visiteurs asiatiques, notamment, avaient totalement laissé tomber le CES. Hein. C'était toute cette période assez extraordinaire. Mais le CES n'a jamais été annulé, hein, malgré tout. Il y a toujours eu toutes les éditions. Pour cette première journée, je me suis donc rendu au Venetian Expo. C'est l'un des lieux où se déroule le CES, et notamment un espace baptisé Eureka Park, qui héberge toutes les startups, enfin la plupart des startups, les fameuses petites startups qui viennent du monde entier pour présenter toutes leurs innovations. C'est un peu le Disneyland des startups. Alors il y a tous les pays qui sont représentés, et cette année, donc je le disais, retour en force des Asiatiques, notamment avec des dizaines de mètres carrés occupés par des stands coréens, chinois, japonais, des très beaux stands, souvent, enfin il y a des grands, il y a des tout petits. Bon, évidemment, il y a aussi il y a des Américains, mais il y a des Européens aussi, des Suisses, les Suisses toujours présents en force, hein, au CES, un peu comme les Français d'ailleurs, ils se regroupent tous ensemble sous la bannière SwissTech. L'Italie également était là. Enfin bref, on n'était pas déçus du voyage. Et puis il y avait les Français, bien évidemment, avec la fameuse French Tech. La French Tech toujours extrêmement visible dès l'entrée du salon Eureka Park, car c'est une particularité, une astuce qui a été initiée il y a déjà plusieurs années et qui est plutôt assez intéressante. C'est-à-dire que l'organisme Business France mobilise et réquisitionne, si on peut dire, une grande partie de cet espace et concentre toutes les startups avec énormément d'affichage. Donc c'est vraiment presque ce qu'on voit le plus en rentrant dans le l'Eureka Park. 135 startups françaises sous la bannière French Tech cette année environ. C'est un peu moins malgré tout que l'an dernier. On en comptait 200. Alors pourquoi ? Pour différentes raisons. Parce que déjà ça reste cher le CES, donc il faut être sélectif. Ce qui n'est pas plus mal d'ailleurs, parce qu'on avait vu certaines époques que ça partait un peu dans tous les sens. Il y avait des exposants qui clairement n'avaient rien à faire ici, hein. Mais comme c'est une formidable vitrine, eh bien dès qu'il y avait une entreprise qui était plutôt dans les petits papiers des responsables locaux dans les régions, etc., eh bien hop, on les emmenait au CES. Mais on était quand même assez loin de la thématique de la technologie, de l'électronique en public, etc., etc. Alors malgré tout ça, eh bien la France France reste une des délégations les mieux représentées au CES de Las Vegas, avec toujours, je le disais, cet effet de masse. Et puis, il faut bien le dire, et c'est pas du chauvinisme, des innovations qui sont assez sympas. C'est-à-dire que quand on se promène dans les allées des stands coréens, bon, alors ça a l'air très impressionnant, mais c'est assez austère. Hein. C'est surtout des petits microprocesseurs pour des applications très industrielles, etc. Du côté des Français, il y a des choses beaucoup plus attractives, on va dire. Encore une fois, à une époque, c'était trop attractif, ça partait dans tous les sens. On se souvient de la patate connectée, même si ça, c'était un gag, en fait. Mais il y avait des tas de choses, il y avait des diffuseurs de parfums, et c'était même un peu énervant, enfin bon. Et puis toujours cette particularité française qui est aussi que les startups sont regroupées sous les bannières régionales. Bon, ça c'est un peu étrange, vous êtes à Las Vegas, à 8000 km de Paris, et puis vous voyez la région Franche-Comté, la région Île-de-France, la région Rhône-Alpes, etc., etc. Pourquoi ? Parce qu'en fait, eh bien, ce sont les délégations régionales avec les collectivités locales qui organisent tout cela et forcément chacun veut défendre sa visibilité. C'est pas très logique parce que d'un point de vue technologique, il vaudrait mieux que toutes ces entreprises soient regroupées par thématique. On pourrait mettre l'intelligence artificielle, les solutions liées à la santé, etc., etc. C'est ce que nous, notamment journalistes tech, on réclame depuis de longues années, enfin qu'on conseille modestement, mais et pour des raisons notamment politiques, eh bien c'est pas ce qui se fait. Bon, enfin, peu importe, puisque à l'arrivée, le résultat malgré tout reste vraiment intéressant avec une très belle visibilité française. Donc, du côté des tendances, bien, on va retrouver énormément d'applications dans le domaine de la santé. Il y a deux jours, je vous parlais de WeThings, incontournable, et puis il y en a d'autres. Tout à l'heure, vous allez entendre aussi une start-up qui s'appelle SquareMind, qui a mis au point un robot pour analyser la peau, hein, comme un dermatologue, pour détecter les grains de beauté qui peuvent poser problème. Autre thématique, le sport, le sport tech à l'approche des Jeux Olympiques, la mobilité aussi, pas mal de trucs dans la mobilité. Tout à l'heure, je vous ferai écouter des jeunes qui ont mis au point des skis électriques. Alors, ça ressemble plus à des rollers, mais bon, ils appellent ça des skis électriques. Et puis, très intéressant, et ça c'est ce qui valorise quand même beaucoup toutes ces innovations, c'est ce qu'on appelle les deep tech, c'est-à-dire dans tous les domaines, des innovations de rupture qui viennent de la science, qui viennent de la recherche, qui sont souvent l'aboutissement de longues années de recherche avec des équipes de chercheurs. On n'est pas sur, trois étudiants en école de commerce qui se sont mis d'accord pour essayer d'inventer un objet connecté, hein, sans vouloir être méchant avec personne. On est sur des choses quand même beaucoup plus sérieuses. Tout à l'heure, tiens, je vous ferai écouter notamment la société Silmac qui a mis au point un moteur au silicium. Vous en saurez plus dans un instant. Alors évidemment, c'est un peu tech, hein, tout ça. Ce qu'on remarque aussi, c'est que, on attendait beaucoup d'intelligence artificielle et il n'y en a pas tant que ça, visiblement, à l'Oreca Park. Enfin, ça ne saute pas aux yeux, comme je me souviens de l'époque où du métaverse, où il y avait du métaverse partout, tout était bariolé aux couleurs du métaverse. Là, l'IA, bon, est évidemment présent, mais dans cette partie-là du salon, ce n'est pas si écrasant finalement. À mon avis, ça va être un peu différent du côté du Convention Center où il y a d'autres exposants et ça, je vous en parlerai demain. Bon, ça, c'est pour la French Tech. Il y a la bannière French Tech, mais il y a aussi d'autres entreprises françaises, mais qui ne sont pas sous la bannière French Tech et qui proposent des choses intéressantes. J'ai remarqué, par exemple, un super petit robot masseur, masseur kinésithérapeute. Enfin, en l'occurrence, non, pas kinésithérapeute, parce que ce n'est pas un dispositif médical. Ils n'ont pas encore le droit de le vendre à des masseurs kinésithérapeutes, mais c'est un bras robotique qui vous fait des massages, en fait. Hein. On connaît les fauteuils massants, gros succès d'ailleurs, traditionnel depuis toujours à Las Vegas. Les Américains, les Asiatiques adorent ça, c'est un peu moins répandu en France. Mais là, c'est pas un fauteuil, c'est un bras qui vient vous faire des massages dans le dos, des massages relaxants. C'est une start-up lyonnaise qui s'appelle Capsix qui fait ça. J'ai trouvé ça plutôt sympa. Alors peut-être parce qu'au moment où je suis allé sur le stand, j'avais mal au dos, mais pour autant, j'ai pas essayé ce bras robotique. Il y avait quelqu'un qui avait l'air, lui, de se régaler. Autre innovation lyonnaise aussi, alors c'est un hasard, mais et puis c'est dans un tout autre domaine, je vous en parle comme ça brièvement. C'est un concept de... Alors, c'est présenté comme une voiture autonome sur rail. De quoi s'agit-il ? En fait, c'est une espèce de... C'est un rail qui doit être installé dans les villes et auquel est suspendu un véhicule, un peu comme un téléphérique. Enfin, des véhicules, des petites cabines comme ça. Et c'est entre le transport en commun et le transport particulier, parce que l'idée, c'est que l'on peut, avec une appli, réserver un véhicule ou réserver une place simplement dans un de ces véhicules qui peuvent transporter 7 personnes et qui peuvent rouler et qui peuvent circuler à la vitesse de 130 km/h sans occuper de surface au sol. Et c'est ça la vraie nouveauté. Bon, c'est un concept qui est vraiment intéressant, Supraways. On aura l'occasion d'en reparler. L'actu cette semaine, enfin l'actu aujourd'hui au CES, c'est aussi une autre innovation qui, elle, n'est pas du tout française, tiens, qui fait un peu le buzz, ça s'appelle Rabbit, c'est américain. C'est un nouveau petit objet connecté qui s'inscrit dans cette espèce de quête pour trouver le successeur ou le complément du smartphone. On avait eu les Google Glass, vous vous rappelez, on avait eu récemment le fameux système Human AI, une espèce de broche, de qui se fixe sur le vêtement et qui peut qui a un système de reconnaissance vocale, qui peut projeter aussi une image dans la main et qui permet de passer des appels, d'envoyer des messages, etc. Mais là, c'est un peu la même idée, mais ça se présente différemment. C'est une espèce de petite boîte carrée, jaune, avec un objectif pour prendre des photos, et c'est censé faire plein de choses. Et notamment, vous pouvez par exemple commander un VTC en passant par cet appareil-là, en lui parlant sans avoir besoin de sortir votre smartphone. Voilà, ça s'appelle le Rabbit. Ça coûte, c'est d'ailleurs déjà commercialisé, ça vient d'être lancé, ça coûte environ $200. On peut le commander sur Internet. Je les ai pas vus, j'ai pas vu ça, mais j'espère bien les voir. J'essaye actuellement de les localiser dans le CES, pour tout vous dire. Donc je ne sais pas encore si je pourrais aller voir à quoi ressemble concrètement ce Rabbit, mais je vous en dis un mot parce que c'est en train de sortir comme ça sur le web, notamment sur les sites techno américains. C'est un des trucs dont on parle ici à Las Vegas. Voilà pour cette première journée à l'Eureka Park. Demain, je vous emmènerai donc au LVCC, le Las Vegas Convention Center. C'est vraiment ça. Alors là, c'est le CES historique d'une certaine manière. C'est là que se trouvent les plus grands stands des plus grandes marques, avec une énorme occupation notamment par les marques automobiles, enfin tout ce qui tourne autour de la mobilité. Mais ça, c'est une autre histoire. En attendant, on va donc donner la parole à 3 startups que j'ai repérées. Ma petite sélection du jour, 3 startups françaises. On va donc dans un instant s'intéresser à ce fameux micromoteur silicium de la Deep Tech. On va découvrir aussi un robot dermatologue. Mais avant cela, les fameux skis électriques dont je vous parlais il y a un instant. C'est parti. Alors, on connaît les trottinettes, on connaît les vélos électriques. Il y aura peut-être demain en plus les skis électriques. Bonjour, Joseph Dairel de la société SK Wheel. Qu'est-ce que c'est que cet engin ?
C'est les premiers skis électriques au monde. Donc en fait, on était frustrés de ne pas pouvoir pratiquer le ski toute l'année et surtout sur toute surface. Donc on s'est dit qu'on avait créé un produit qui allait nous permettre d'avoir les mêmes sensations. Et en plus de ça, qu'on allait pouvoir utiliser aussi bien sur la plage, sur les sentiers de montagne, sur les graviers, sur la pelouse. Donc c'était vraiment l'idée, pouvoir retrouver les sensations du ski et pouvoir l'utiliser partout et tout le temps.
Alors vous dites ski et moi je compare ça à la trottinette et au vélo parce que ça ressemble plutôt à des gros patins à roulettes.
Hein. Exactement, on a l'habitude, tout le monde nous dit ça. Il faut savoir qu'en fait ça ne s'utilise pas du tout de la même manière. Donc en fait on n'a pas du tout besoin de patiner, pas du tout besoin de lever le pied. En fait c'est vraiment full électrique, on a un moteur dans chaque roue et c'est en fait ça qui va nous permettre de vraiment nous déplacer comme du ski. Donc l'accélération et le freinage va se passer sur la manette et ensuite vraiment pour retrouver les sensations du ski il va falloir se curver exactement comme faire de la godille au ski.
C'est facile à appréhender ou il faut un apprentissage particulier ?
Alors si on compare ça justement avec les gyro-roues ou les one-wheel qu'on peut voir déjà dans les rues, ça va être beaucoup plus simple. Il n'y a pas de système gyroscopique, donc ça nous permet en fait pour un skieur de le prendre en main en moins de 5 minutes. Quelqu'un qui n'a jamais fait de ski de sa vie, pour qu'il soit vraiment à l'aise et puisse l'utiliser en ville, il faudra à peu près 30 minutes.
Ça peut s'utiliser en ville, mais également en forêt, etc.
Exactement, c'était l'idée. Donc au tout début, c'était vraiment d'avoir un produit sensationnel qu'on puisse utiliser aussi vraiment, comme vous l'avez dit, en forêt ou vraiment sur la plage. Et après, ce qu'on s'était dit, c'est qu'on voulait aussi l'adapter à la ville. Donc pour ça, il fallait aussi qu'il soit pratique et ergonomique. Donc on a déposé un deuxième brevet, justement sur une poignée multifonction, donc qui nous sert à accélérer, freiner. Et lorsqu'on n'utilise pas le produit, je pense qu'il va faire la démonstration tout de suite. Hop, on a une poignée télescopique, ce qui nous permet en fait de le transporter comme une petite valise et de jamais avoir besoin de le porter.
Combien ça pèse ?
Alors ça pèse 12,5 kg, donc à peu près 6 kg par pied. Et en fait, ce qui est vachement amusant, c'est que si jamais on part au ski, bah, la chaussure de ski plus un ski, c'est 6 kg.
Et l'autonomie ?
On est à 30 km d'autonomie à 25 km/h. C'est largement assez pour une utilisation urbaine, mais si jamais vous voulez vraiment aller vous amuser, on a créé nos propres batteries clipsables, ce qui fait que vous pouvez les changer très rapidement. Elles font seulement 1,2 kg, donc vous pouvez en mettre deux dans le sac à dos et aller faire jusqu'à 60 km.
Vous trouvez qu'il n'y a pas assez d'engins de folie actuellement dans les villes, déjà ? Ça va rajouter encore Est-ce que ça risque pas de rajouter encore des gens qui font n'importe quoi ?
Dans l'idée, si, c'est pour ça que nous, dans tous les cas, quand on le vend, il est bridé à 25 km/h. Mais nous, on voulait vraiment remettre aussi du fun dans les déplacements du quotidien. On voit qu'il y a le vélo, la trottinette, mais ça reste vraiment des engins utilitaires. On va aller d'un point A à un point B. Nous, grâce à notre produit, on va être content le matin d'aller au travail parce que du coup, on va s'amuser sur le chemin. Donc, c'est aussi pour que les gens sourient beaucoup plus, pour donner un peu de joie dans un monde où on fait que travailler.
Vous en êtes où du développement et combien ça coûte ?
Franchement, je suis très heureux de le dire. On vient de lancer notre financement participatif il y a deux jours sur Indiegogo. Donc, le prix pour les retailers sera 2 400 € TTC. Et là, on fait une très bonne réduction pour le lancement. Donc, vous pouvez l'acheter à 1 600 €.
Mais est-ce que j'ai le droit de rouler avec ça en ville ou même ailleurs ?
Alors, nous, du coup, pour l'instant, on a respecté toutes les normes DPM. Donc, le produit sera à la vente bridé à 25 km/h, feu avant, feu arrière, catadriop sur les côtés pour se faire voir la nuit et également l'avertisseur sonore. Donc, théoriquement, on va rentrer dans la même classe que les EDPM au même titre que les trottinettes électriques. Donc, lorsqu'il y a une piste cyclable, on utilise la piste cyclable et quand il n'y a pas de piste cyclable, on a le droit de rouler sur la route avec.
Merci beaucoup, Joseph Dairel de SK Wheel.
C'est ça. Et alors, petite anecdote, on dit squeal.
Squeal. Bah oui, pourquoi je dis ce que
disais ce qu'à Will, c'est il y a pas de souci.
Faut changer de nom, c'est pas grave. Hein.
Sûrement, ce serait mieux.
Ok, merci.
Merci à vous. Bonne journée.
Alors là, on est devant une drôle de machine. C'est un robot avec un seul bras au bout duquel il y a quelque chose qui ressemble à une sorte de capteur carré avec des lumières. Et c'est un appareil pour détecter et analyser les grains de beauté et les taches sur la peau. Potentiellement suspect, Ali Kachlouf, société SquareMind. Expliquez-nous ça.
Oui, bonjour. Alors, je suis Ali, le cofondateur et CEO de SquareMind. Donc, ce que vous voyez là, c'est une solution de rupture, une première mondiale d'imagerie et d'IA, dont l'objectif, c'est de numériser l'intégralité de la peau en quelques minutes de façon automatisée à très haute résolution. Et donc, on a ensuite une intelligence artificielle qui permet de mettre en évidence les changements entre deux visites, quels sont les grains de beauté qui sont nouveaux, ceux qui ont changé. Donc c'est un appareil qui sera sur le marché d'ici la fin de l'année, en France et en Europe. Et donc la façon dont ça fonctionne, c'est que vous mettez en tant que patient devant le dispositif, vous suivez les instructions sur l'écran, et le bras robot navigue autour de vous, autour de votre peau à courte distance, pour prendre des séries de clichés, et on reconstruit en temps réel des Google Maps de la peau, très haute résolution, qui vont pouvoir être analysés, examinés par le médecin, pour porter un diagnostic. Et donc, c'est une vraie révolution dans le domaine dermatologique.
Est-ce que cet appareil peut détecter des grains de beauté suspicieux ?
Alors, dans la première génération de ce produit, ce que vous allez avoir, c'est une numérisation complète du corps jusqu'à un niveau de définition dit dermoscopique, c'est l'équivalent de la loupe du médecin, et vous aurez une première intelligence artificielle qui met en évidence les changements entre deux visites. C'est la première étape avant d'aller vers une IA plus diagnostique, si je puis dire, qui pourra aider le médecin dans son examen médical, dans le cadre du dépistage, par exemple.
Donc, vous êtes plus sur de la surveillance de l'historique de la peau d'un patient.
Exactement. On est dans rendre l'examen beaucoup plus accessible. Imaginez, on peut numériser des patients dans des zones, justement, qui sont dépourvues de médecins. Aujourd'hui, c'est un vrai problème, en particulier en France, hein, une démographie médicale qui est en chute libre. Donc on peut tout à fait envisager de numériser des patients, des médecins qui peuvent revoir des scans et bénéficier de cette IA de détection de changement entre deux visites.
Exact. Ça n'existait pas, ce type d'appareil ?
Ça n'existait pas. Il a fallu ces 4 ans de R&D avec beaucoup d'innovations, beaucoup de brevets. Et donc, la vraie unicité de ce qu'on fait, c'est d'avoir résolu un problème fondamental d'imagerie en dermato, qui est de numériser le corps dans son intégralité avec, encore une fois, le niveau de définition dit dermoscopique, qui est la loupe du dermatologue. Et aujourd'hui, on n'a pas ça, on a soit la loupe manuelle, soit des appareils qui vous permettent de numériser le corps, mais avec des images dites macroscopiques, donc assez peu utiles cliniquement. Voilà. Alors, c'est le premier mondial qu'on dévoile ici.
On sait que ça prend du temps, en plus, dans le cabinet d'un médecin, hein, pour l'examen du corps entier, jusque sous les cheveux, etc. Mais la question qu'on va vous poser, qu'on vous pose inévitablement, est-ce qu'à terme, c'est quelque chose qui pourrait faire le boulot à la place du médecin, justement ?
Alors, ça va augmenter le médecin, ça ne remplacera pas le corps médical. Il faut un médecin pour porter une décision. Mais c'est effectivement, vous soulevez un point qui est important, c'est l'optimisation du temps médical. On sait bien que c'est la ressource, l'une des ressources les plus précieuses des médecins. Et donc, effectivement, d'être capable, en si peu de temps, de construire une mémoire de la peau automatisée, c'est une vraie révolution parce que je pense que la plupart d'entre nous sont déjà allés chez un dermatologue et malheureusement, ils ont assez peu de temps pour créer une documentation fidèle, complète, exhaustive de la peau. Ce sera impossible.
Il faut combien de temps pour faire un examen complet ?
Alors, un examen complet avec ça, ce sera quelques minutes, de l'ordre de 3-4 minutes, si on suit les instructions sur l'écran, bien sûr.
Merci beaucoup, Ali Kachlouft, de la société SquareMind.
Merci beaucoup, Jérôme. C'était un plaisir.
Alors, sur le stand de la French Tech, une start-up dont on parle déjà beaucoup, qui fabrique un truc assez étonnant, un micromoteur au silicium. Jean-Baptiste Carnet de Silmac, expliquez-nous ça. Qu'est-ce que c'est qu'un micromoteur au silicium ?
C'est une nouvelle capacité, une nouvelle brique technologique qu'on propose aux innovateurs, aux designers, aux ingénieurs de mouvoir une pièce, donc créer une fonctionnalité mécanique dans un environnement électronique. C'est l'illustration que vous pouvez voir derrière moi, c'est une carte électronique sur laquelle on a inséré nos micromoteurs qui se présentent dans la même configuration que les microprocesseurs, les pièces en silicium classiques qu'on connaît, les composants qu'on a dans les smartphones, les voitures, etc. Et nous, avec notre technologie, on vient créer une fonction mécanique. Donc soit on peut, par exemple, mouvoir des aiguilles, c'est le cas avec la montre qu'on a dévoilée il y a quelques mois, The Time Changer, qui est le premier objet, la première montre équipée de notre technologie, donc on est très fiers de ce dévoilement. Et puis l'objectif du CES pour nous, c'est de proposer la technologie au secteur de l'électronique, du médical, des industriels qui peuvent avoir besoin de créer un mouvement dans un environnement comme ça restreint, électronique. Donc on peut penser au corps humain, on peut penser à des smartphones peut-être, des montres. Il y a plein d'applications comme ça qu'on souhaite couvrir avec notre technologie.
On est vraiment dans ce qu'on appelle de la deep tech.
Oui, tout à fait. On a eu un parcours de développement qui a été très long, qui a pris presque 20 ans. Donc piloté à Besançon. Donc la technologie est designée là-bas, fabriquée là-bas. Les montres sont assemblées là-bas, chez nous, dans nos locaux. Donc on est très fiers de ce parcours-là et du caractère unique de ce qu'on développe, qui nous a permis pour l'édition 2024 d'avoir le prix Best of Innovation. Donc la reconnaissance à l'échelle mondiale au niveau du salon du caractère unique de ce qu'on développe, de ce qu'on fait. Et c'est vraiment une belle reconnaissance pour nous.
Ce type de produit, de composant n'existait pas auparavant. C'est vraiment quelque chose qui vient changer la donne ?
Oui, c'est ce que les Américains vont appeler un game changer. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est vraiment une nouvelle brique technologique qu'on propose, qui est le pur produit du fruit des nombreuses années de développement qu'on a mises en œuvre, des dizaines et des dizaines de brevets qu'on a développés autour de la pièce. Effectivement, c'est unique. Personne d'autre ne fait ce qu'on fait. Et c'est pour ça que des grands groupes viennent nous voir régulièrement et s'intéressent à nous. Et c'est ce qu'on souhaite adresser avec le CES.
Alors là, vous avez donc passé un partenariat pour produire une montre.
Oui.
À quoi ça pourrait servir d'autre, en fait ?
Alors, il y a plein d'applications qu'on peut imaginer et plein d'applications qu'on ne peut pas imaginer. En fait, c'est pour ça qu'on cible, c'est les innovateurs, les ingénieurs, les designers qui vont voir cette nouvelle brique technologique, cette nouvelle capacité et qui, avec ça, vont avoir l'idée de la mettre en œuvre dans des objets qui peut-être n'existent pas aujourd'hui, auxquels on ne pense pas. Comme par exemple, quand l'électronique a réduit sa taille, a commencé ce travail-là il y a une trentaine d'années, ça a donné naissance à l'iPod, puis au smartphone, puis aux lunettes connectées, aux casques de réalité augmentée. Les gens qui ont travaillé sur la miniaturisation de l'électronique, ils n'étaient pas forcément capables de savoir ce que ça ferait à l'époque. Et comme nous aujourd'hui, on met cette brique technologique sur le marché, on la propose aux innovateurs. Il y a des applications auxquelles on pense, donc comme peut-être des implants dans le corps humain pour piloter des systèmes, des dispositifs, envoyer des médicaments directement depuis le corps humain avec des micromoteurs tels qu'on les propose. Il y a effectivement la montre avec la montre qu'on a dévoilée. Il y a d'autres applications possibles dans peut-être les smartphones, peut-être les montres connectées, peut-être l'automobile. Et il y a sûrement plein d'applications auxquelles nous-mêmes on ne pense pas avec notre technologie, mais qui va réussir à stimuler la créativité des designers, des innovateurs.
Merci beaucoup, Jean-Baptiste Carnet.
Merci beaucoup.
Voilà pour ce troisième épisode de Monde Numérique spécial CES de Las Vegas, en partenariat avec Free Pro, le meilleur de Free pour les entreprises. Je vous retrouve demain pour un nouvel épisode et on sera donc au Convention Center. C'est un autre espace consacré aux innovations dans le cadre du CES 2024. C'est le grand espace où l'on retrouve tous les plus grands exposants et les plus grands stands. Un épisode à écouter absolument. Je ne sais pas encore exactement ce que j'y verrai, enfin j'ai une petite idée quand même et j'ai déjà pour tout vous dire pas mal de rendez-vous, donc compte rendu et interview demain toujours sur Monde Numérique. Abonnez-vous au podcast, abonnez-vous aussi à la newsletter en allant sur mondenumérique.info et puis pour voir en image tout ce dont je viens de vous parler, eh bien rendez-vous sur les réseaux sociaux, vous trouverez des petites vidéos postées au fil de l'eau et un compte rendu quotidien de ce CES 2024 de Las Vegas. À très vite, salut.